Chapitre 27. Pendant toute cette bagarre, César s'était tenu tranquille. Il n'avait pris ostensiblement parti ni pour Claudius ni pour Cicéron. Il avait laissé faire. En jetant les yeux sur Rome, voici ce qu'il y voyait. Une ville livrée à la plus complète anarchie, un peuple qui ne savait à qui se rattacher. Pompée était une grande gloire, mais plus aristocratique que populaire. Caton était une grande réputation, mais plus admirée qu'aimée. Crassus une grande fortune, mais plus enviée qu'honorée. Claudius une grande audace, mais plus brillante que solide. Cicéron était usé, Bibulus usé, Lucullus usé. Catulus était mort. Quant au corps de l'État, c'était bien pis. Depuis l'acquittement de Claudius, le Sénat était avili. Depuis la fuite de Cicéron, les chevaliers étaient déshonorés. Il comprit qu'il était temps pour lui de quitter Rome. Quels rivaux y laissait-il ? Crassus, Pompée, Claudius. Caton était un nom, un bruit, une rumeur, mais n'était pas une rivalité. Crassus sollicitait la guerre chez les Parthes. Il allait l'obtenir. Il partirait à 60 ans pour une expédition lointaine chez des peuples sauvages, féroces, impitoyables. Il y avait grande chance qu'il n'en revînt pas. Pompée avait 48 ans, une jeune femme et un mauvais estomac. Il commençait à être assez mal avec Claudius, qui l'insultait publiquement. Claudius était emparé de cette belle maison de Cicéron qu'il lui avait reprochée en plein Sénat et qui avait coûté à Cicéron 3 500 000 sesterces. Lui l'avait eu pour rien, la peine de la prendre. « J'élèverai un beau portique au Carène, avait dit Claudius, pour faire pendant à mon portique du Mont Palatin. » Son portique du Mont Palatin, c'était la maison de Cicéron. Son portique des Carènes, ce serait la maison de Pompée. Claudius avait 30 ans, une réputation exécrable, un génie inférieur à celui de Catilina. Il devait être écrasé sous Pompée ou, par fortune, l'emporter sur lui. S'il était écrasé par Pompée, Pompée perdrait certainement à cette victoire le reste de sa popularité. S'il l'emportait sur Pompée, Claudius n'était point un ennemi qui inquiéta sérieusement César. Cependant, il comprenait qu'il était temps qu'il fît quelque chose de grand, qu'il se retrempât pour ainsi dire lui-même. Il ne pouvait se dissimuler que jusqu'à présent, et il avait déjà plus de 40 ans, il n'avait été qu'un démagogue assez vulgaire, inférieur en audace à Catilina, en gloire militaire à Pompée et même à Lucullus. Sa grande supériorité était d'avoir su faire à 30 ans 50 millions de dettes. Mais ces dettes payées, sa supériorité était perdue. Il était, il est vrai, l'homme le plus débauché de Rome, et encore après Claudius. Or César n'avait-il pas dit qu'il aimait mieux être le premier dans une petite bourgade que le second dans la capitale du monde ? Ces dernières combinaisons politiques n'avaient pas été heureuses, et dans le résultat, il était resté au-dessous de Claudius. Le jour où Pompée, dans l'enivrement de sa première nuit de noces, lui avait fait décerner le gouvernement des Gaules transalpines et celui de l'Illyrie avec 4 légions, il y avait eu, même dans le peuple, une terrible opposition à ce décret. Caton s'était mis à la tête de cette opposition. César avait voulu intimider la résistance dans son chef. Il avait fait arrêter Caton et l'avait fait conduire en prison. Mais cette brutalité avait eu si peu de succès que César lui-même avait été obligé de donner ordre à l'un de ses tribuns d'enlever Caton des mains de ses lictors. Un autre jour, comme le tribun Curion, fils du vieux Curion, faisait une opposition à devenir inquiétante, on suscite un délateur, Vétius. Celui-ci accuse Curion, Pasellus, Scépion, Brutus et Lentulus, le fils du Flamine, d'avoir voulu assassiner Pompée. Bibulus lui-même lui avait, à lui, Vétius, apporté un poignard. Comme si un poignard était chose si difficile à se procurer à Rome, que Bibulus fut obligé de se charger de ce soin. Vétius avait été hué et envoyé en prison. Le lendemain, on l'avait trouvé étranglé, tellement à point pour César qu'en vérité, si l'un des reproches que l'on faisait à César n'eût pas été sa grande humanité, on eût pu croire qu'il avait été pour quelque chose dans un suicide qui venait si à propos. Il était donc bon de s'éloigner de toutes les manières et de se retirer dans ce magnifique proconsulat dont les frontières n'étaient qu'à 50 lieues de Rome. D'ailleurs, il n'y avait pas de temps à perdre. Au moment où il s'apprête à partir, un accusateur s'apprête à le dénoncer. « Ah !» dit Michelet, « j'aurais voulu voir en ce moment cette pâle et blanche figure, fanée avant l'âge par les débauches de Rome, cet homme délicat et épileptique, marchant sous les pluies de la Gaule à la tête de ses légions, traversant nos fleuves à la nage, ou bien à cheval entre des litières où ses secrétaires étaient portés, dictant 4, 6 lettres à la fois, remuant Rome du fond de la Belgique, exterminant sur son chemin 2 millions d'hommes et domptant en 10 années la Gaule, le Rhin et l'océan du Nord. » Oui, c'eût été curieux, car César ne promettait rien de tout cela. Voulez-vous savoir comment Catulle, l'amant de la sœur de Claudius, de la femme de Métellus Célère, qu'il appelait sa lesbie, en souvenir des débauches de la lesbienne Sappho, voulez-vous savoir comment Catulle le traite avant le départ? Il est vrai qu'il ne le traitera guère mieux au retour. Voulez-vous savoir, dis-je, comment il le traite? In Césarem. Je me soucie peu de te plaire, César, et peu m'importe que tu sois blanc ou noir. In Césaris Sinédos. Sinédos, ce sont ses mignons. Tous les défauts te plaisent, ainsi qu'à ton vieux routier de Suffétius. À merveille, vous devriez cependant en avoir assez de la tête en fuseau d'Othon, des émanations traîtresses de Libon et des jambes sales de Vétus. Voyons, impérator inimitable, fâche-toi de nouveau contre mes jambes, à qui ta colère est bien indifférente. In marmuram et Césarem. Quel beau couple de mignons vous faites, débauché Mamura, impudique César, tous deux avilis, l'un à Rome, l'autre à Formie, tous deux flétris, tous deux malades de vos excès, jumeaux de vice, tous deux savants en lubricité, à qui une seule litière suffit, voraces adultères, rivaux de compagnons et de femmes. Oh, vraiment, vous faites un beau couple! C'est par de pareils vers que l'on saluait, cependant, le départ du conquérant des Gaules. Et il faut avouer qu'il méritait bien toutes ces avanies, dont il ne songeait pas même à se fâcher. Bibulus, pendant tout son consulat, n'avait, dans ses édits, désigné César que sous le titre de reine de Bithynie. Il disait qu'après avoir aimé un roi, il aimait la royauté. Une espèce de fou, nommé Octavius, à qui son titre de bouffon permettait de tout dire, ayant rencontré Pompée et César, avait publiquement salué Pompée du nom de roi et César du titre de reine. Caius Memmius lui avait reproché d'avoir servi Nicodème à table et de lui avoir présenté la coupe, confondue au milieu des esclaves et des eunuques de ce prince. Cicéron, en plein Sénat, un jour que César défendait la cause de Nysa, fille de Nicomède, en rappelant les obligations qu'il avait à ce prince, Cicéron lui avait dit « Laisse là tes obligations, on sait ce que tu as donné à Nicomède et ce que tu en as reçu. » La liste de ses maîtresses était immense. Au moment de son départ pour la Gaule, on lui donnait Posthumie, femme de Servius Sulpicius, Loli, femme d'Olaire Gabinus, Tertullia, femme de Crassus, et Servili, sœur de Caton. Il avait donné à cette dernière, nous l'avons dit, une perle de 11 à 1 200 000 francs. Et comme on en racontait la chose devant Cicéron, « Bon, dit-il, ce n'est pas si cher que vous croyez. Servili lui prête à sa fille Tertia en déduction de compte. » Plus tard, nous le verrons, amant de Noé, belle reine mauresque, et de Cléopâtre, charmante nymphe grecque, transplantée sur la terre d'Égypte. Enfin, Curion, le père, résumait tous les mauvais propos que l'on tenait sur César dans ces quelques paroles. « César, disait-il, c'est le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. » Un acte public fut tout près de constater la première partie de cette médisance. Elvius Cinna, tribun du peuple, dit Suétone, a avoué plusieurs fois qu'il tenait une loi toute prête et qu'il devait publier, en l'absence de César et par son ordre, qui lui permettait de prendre tant de femmes qu'il voudrait pour avoir des héritiers. C'est ce qui fait hasarder à M. Champagny de dire, dans son beau travail sur le monde romain, que Jules César était bien plus complet que Jésus-Christ, lequel n'avait que toutes les vertus, tandis que Jules César avait non seulement toutes les vertus, mais encore tous les vices. Maintenant, laissons partir César pour les Gaules. Laissons-le plier ses tentes, grandes comme des palais, charger ses litières qui sont des chambres complètes. Laissons-le emporter ses tapis de pourpre, ses planchers de marqueterie. Soyez tranquille, au besoin, il marchera à la tête de ses légions, à pied, la tête nue, au grand soleil, par les pluies battantes. Il fera 30 lieues par jour à cheval ou dans une charrette. Si une rivière l'arrête, il la passera à la nage ou sur des outres. Si ce sont les neiges alpestres, il les poussera devant lui avec son bouclier, tandis que ses soldats les entameront avec des piques, des hoyaux et même leurs épées. Jamais il n'engagera son armée dans un chemin qu'il n'ait lui-même exploré ce chemin. Quand il fera passer ses légions en Angleterre, parce qu'il a entendu dire que l'on pêchait sur les côtes de la Grande-Bretagne des perles plus belles que dans les mers de l'Inde, il aura essayé lui-même le trajet et il aura, de sa personne, visité les ports qui peuvent être de sûrs abris à ses flottes. Un jour, il apprendra que son armée, dont il s'est séparé pour suivre une bonne fortune, est assiégée dans son camp. Alors il se déguisera en Gaulois et passera à travers les ennemis. Une autre fois, comme les secours qu'il attend n'arrivent pas, il se jettera dans une barque et ira seul les chercher lui-même. Aucun présage n'arrêtera sa marche, aucun augure ne changera ses desseins. La victime échappera aux mains du sacrificateur et n'en marchera pas moins contre Scipion et Juba. Il tombera en sortant du vaisseau et en mettant le pied sur la terre d'Afrique, il s'écriera « Je te tiens, Afrique !» Jamais il n'aura de parti pris, l'occasion le déterminera toujours. Son génie improvisera le plan qu'il doit suivre. Il combattra sans en avoir le projet. Il attaquera après une marche. Il ne s'inquiétera point si le temps est bon ou mauvais. Seulement, il tâchera que l'adversaire ait la pluie ou la neige dans le visage. Jamais il ne mettra son ennemi en déroute qui ne s'empare de son camp. Une fois que l'ennemi lui aura tourné le dos, il ne lui donnera jamais le temps de revenir de sa frayeur. Dans les moments critiques, il renverra tous les chevaux, et même le sien, afin de mettre ses soldats dans la nécessité de vaincre en leur ôtant la ressource de la fuite. Quand ses troupes plieront, il les ralliera seul, il arrêtera les fuyards de ses propres mains, les forçant, si épouvantés qu'ils soient, de tourner le visage à l'ennemi. Un porte-enseigne qu'il arrêtera ainsi lui présentera la pointe de son javelot et il repoussera la pointe de ce javelot avec sa poitrine. Un autre lui laissera son étendard dans les mains et avec cet étendard, il marchera à l'ennemi. Après la bataille de Pharsal, comme il a fait prendre les devants à ses troupes et qu'il traversera l'Hellespont dans une petite barque de transport, il rencontrera Lucius Cassius avec 10 galères et il fera Lucius Cassius prisonnier avec ses 10 galères. Enfin, à l'attaque d'un pont à Alexandrie, il sera obligé de se jeter à la mer et nagera pendant l'espace de 200 pas, c'est-à-dire jusqu'au vaisseau le plus proche, tenant sa main gauche élevée pour ne pas mouiller les papiers qu'il porte et tirant sa cotte d'armes avec ses dents afin de ne pas laisser de trophée à l'ennemi. Or, le voilà parti, parti pour s'égarer dans ce chaos barbare et belliqueux qu'on appelle la Gaule et qui convient si bien à son génie. Voyons donc ce que deviendront pendant son absence Cicéron exilé, Pompée dépopularisé et Claudius, roi momentané de la populace.